Bon, bienvenue tout le monde, welcome everybody, on va la faire en deux langues. Donc, le thème de cette table ronde, donc, c'est les personnages d'abord, comment faire vivre une histoire.
So this panel deals with characters and how you have them in the story.
Donc, autour de cette table, nous avons, dans l'ordre, donc Jean-Laurent Del Socorro, donc, qui est auteur, passionné de SF et de fantasy, de jeux de rôle.
So he's a writer, life science fiction, fantasy, role play.
Son premier roman, donc Royaume de vent et de colère, c'était une fantasy historique sur Marseille pendant les guerres de religion.
So he wrote a novel, a fantasy, about Marseille, the town, in the past, during some religion wars.
Et il a obtenu le prix Elbakin du meilleur roman de fantasy français. Nous avons Marie Brennan, donc auteur américaine de fantasy.
So you're an American fantasy writer.
qui est également diplômée en anthropologie de l'université de Harvard.
So you graduated in anthropology.
Et qui a aussi étudié le folklore et la mythologie. Okay. Elle a écrit de nombreuses nouvelles et puis également un diptyque, Guerrière et sorcière, et puis une histoire naturelle des dragons avec les mémoires de Lady Trent, donc une héroïne assez intéressante dont on va parler tout à l'heure. Samantha Bailly, donc, qui a commencé sa carrière très jeune, qui a publié divers ouvrages, a touché à beaucoup de genres, la romance, romance paranormale, roman jeunesse, récit satirique, fantasy, etc. Et qui notamment avait été remarquée pour son diptyque de fantasy Au-delà de l'oraison, mais qui depuis a aussi écrit beaucoup de choses, avec notamment tout dernièrement Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles qui sont parues et d'autres ouvrages dont on parlera éventuellement ensemble.
So Samantha, she began writing when she was very young and she's doing a lot of things, you know, fantasy, romance and so on. Okay.
Et enfin, nous allons terminer par Jeanne Cressange. Donc, Jeanne qui est scénariste, dialoguiste, essayiste, écrivain, qui a également touché à beaucoup de domaines dans sa carrière et qui, ces dernières années, s'est largement tournée vers le roman historique.
So, Jeanne has been... she wrote essays, scenarios, and... okay. And at the moment, she's working on historical novels.
Et donc, notamment, en roman historique, on peut citer le Luthier de Mirecourt, Les Ailes d'Isis, Le Soleil des Pierres. Et en 2014, donc plus récemment, elle a sorti un recueil de nouvelles intitulé Le Murmure, sur le thème de la rencontre, et dont on va parler. Donc, dans cette table ronde, on va surtout aborder l'aspect des personnages.
So we're going to talk about the characters.
Je retrouve mes petites questions. Voilà. On va commencer par Marie Brennan. Donc Marie, ce personnage de Lady Trent, cette femme victorienne, so the character Lady Trent, qui est donc une femme dans un environnement victorien.
She's a woman in a Victorian environment.
Comment vous est venue l'idée du personnage? How did you think of that character?
So the idea for Lady Trent came out of some of the historical research that I had done for my previous series, The Onyx Court, because those books are set at different points in English history. And one of the things I ended up reading about was intellectual history and coming up across a lot of things about female intellectual history. So...
Donc en fait, l'idée m'est venue d'un certain nombre de recherches que j'ai fait pour une série de romans que j'ai écrit avant, et où notamment, j'ai pas noté, du coup j'ai oublié.
So you said it was the research you did about
yes, female intellectual history.
Oui, voilà, sur l'histoire intellectuelle des femmes. Donc j'ai fait des recherches et c'est de là que j'ai commencé à accumuler du matériel.
There were a number of women in the 18th and 19th centuries who traveled widely, wrote about where they traveled, did research in various fields, and so I had those women in my mind when I came up with her.
Et donc, en fait, j'ai découvert qu'au 19e siècle, il y a eu de nombreuses femmes qui ont voyagé, qui ont écrit, qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont fait beaucoup de choses, et c'est resté dans mon esprit, ça m'a marqué. Ok. Donc voilà, donc nous saluons Jocelyne qui arrive un petit peu au débeauté. Oh.
Ah.
Donc du coup, tu vas pouvoir avoir ton petit.
J'ai pas lu les liens parce que c'est pas moi.
Oui, non, mais ça fait rien, tu vas pouvoir traduire, c'est pas. On va plutôt parler des personnages en général. Donc voilà, donc vraiment merci de nous dépanner. Et puis entre-temps, ben, on aura peut-être Hélène qui va arriver tout essoufflée de son train, on ne sait pas. On va voir. C'est un petit peu, ça c'est un petit peu, vous savez, les aventures du jeudi. On a toujours comme ça des mésaventures de table ronde avec un auteur qui n'est pas encore là. Et en ce moment, avec les problèmes d'essence et les problèmes de train, c'est déjà un miracle d'avoir tout le monde. Ok. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage de Lady Trent? Quel a été le travail pour créer le personnage?
I was lucky that a chunk of the research I had already done, essentially, with the previous books that I had read. Like I said, I already had the shape of it in my mind. So when it came to researching this character, I mostly had to think about a few specifics, like basically all of the Europeans in this setting are Jewish, so I had to go read about Judaism and some things about animal biology.
Donc j'avais beaucoup de chance en fait parce que il y a beaucoup de recherches que j'avais faites au départ pour la série précédente. Donc il y avait quand même des bonnes idées qui m'étaient restées. Et pour ce qui est des détails, par contre, j'ai été obligée de faire une recherche un peu plus précise. Par exemple, un grand nombre de mes personnages sont des Juifs européens. Donc j'ai été obligée de faire la recherche là-dessus. Donc il y a eu quand même des éléments que qui ont fait l'objet de recherches.
But for the most part, honestly, when I began writing this book, it was one of those cases where the character just kind of came into my head immediately. The voice that the story is being told in clicked immediately. And so it's not something where I had to sit down and really consciously develop her. She was just kind of there in my mind when I started writing.
Donc au départ, ces personnages me sont venus, je ne sais, je pourrais pas l'expliquer, mais très très spontanément. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée, ils existaient pour moi, c'est une voix qui m'est venue, si vous voulez. Donc les personnages existaient, j'ai pas été obligée de faire tellement d'efforts conscients ou d'efforts spécifiques pour créer ces personnages.
Jean-Laurent, dans Royaume de vent et de colère, j'ai lu donc dans une interview que... Donc je cite tes propos. Hein. J'ai décidé de prendre un cadre historique existant et de centrer mon roman sur une galerie de personnages. Je voulais que le récit se construise au travers des histoires personnelles de chacun d'entre eux. Et tu dis, les personnages sont nés avant le travail de rédaction. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, tout à fait. En fait, l'enjeu, c'est d'avoir quand on écrit un roman, c'est de créer un univers, une histoire, des personnages. Là, concrètement, dans Royaume de vent et de colère, le cadre est historique, donc je ne l'invente pas. L'histoire, même si je m'appuie sur l'histoire, la grande histoire, même si voilà, il y a des éléments fictifs dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était mettre dedans des personnages sur lesquels le lecteur peut s'identifier pour revivre ces événements et pour partager voilà, certaines thématiques du roman. Donc effectivement, le travail n'a pas été vraiment l'histoire au départ. C'est vraiment quel type de personnage je veux faire partager à mon lecteur. Donc c'est à la fois une réflexion sur un équilibre, c'est-à-dire je voulais des personnages féminins, des personnages féminins forts, je voulais des personnages masculins, il y a des personnages homosexuels dans le roman. Je voulais qu'il y ait... alors je sais que pertinemment que sur un cadre historique, il y a certaines choses qui ne sont pas réelles. J'ai notamment quelqu'un qui est une femme qui est capitaine de mercenaires, ce qui n'existait pas à l'époque. Mais je voulais volontairement que des gens du XXIe siècle puissent s'identifier avec des problématiques de l'époque à travers ce filtre des guerres de religion.
Et tu as également touché au théâtre. Est-ce que, et puis la pratique du jeu de rôle également, est-ce que c'est des choses qui ont influencé ta manière de construire les personnages ?
Alors, sur l'aspect jeu de rôle, c'est juste, je pense, l'habitude de créer des personnages fait voilà, qu'on ait une facilité à inventer des choses, à imaginer une palette, on va dire, d'individus assez variés. Mais guère plus, en fait. Pour le théâtre, il y a ouvertement un personnage, le personnage de Silas, qui est le quatrième personnage ennemi du roman, on va dire, qui lui, c'est des monologues, ce sont des scènes de théâtre. Et on pourrait les jouer au théâtre, c'est pensé pour ça, il y a une adresse au public, donc vraiment, c'est, ça fait partie du style du roman.
D'accord, merci. Samantha, dans un certain nombre de tes ouvrages, on constate la présence de duos. Notamment donc dans Oraison, où on a les réactions opposées de deux sœurs, Aileen et Nouni. Plus récemment, dans Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, les deux personnages de Lou et Sonia, qui sont des personnalités opposées, l'une est blonde, l'autre est brune, et où il va y avoir... est-ce que, dans les personnages, tu as besoin de cette dualité pour arriver à construire tes histoires ?
Alors, oula, ça marche, c'est bon. En fait, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui ressort dans pas mal de mes romans, cette idée qu'on est complété par un autre qui est différent. Et un des sujets que je préfère dans l'écriture, c'est le rapport à l'autre, à l'altérité, à quel point on est semblable et à quel point finalement on est autre. Et du coup, c'est vrai que Aileen et Nouni, ce sont deux sœurs élevées dans le même cocon familial, mais qui prennent des directions différentes. Et je trouvais ça passionnant d'explorer comment en fait leur psychologie va se construire par rapport à leur conditionnement social et aux différentes épreuves qu'elles vont chacune subir. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux personnages de la même fratrie, de la même famille, qui sont complètement aux antipodes. Et dans Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, c'est plutôt l'idée de se compléter, avec une âme jumelle en l'occurrence, dans l'ambition artistique, on va dire, puisque les deux jeunes filles sont très très différentes, et l'une et l'autre, elles sont dans une, on va dire, une stimulation artistique, une émulation et une amitié qui est, on va dire, positive dans ce qu'elle peut avoir de fusionnel. Contrairement à d'autres amitiés peut-être fusionnelles qui pourraient être un peu toxiques, là c'est vraiment cette idée qu'on est complété et qu'on est meilleur de la différence.
D'accord. Marie, il y a également un joli duo dans le diptyque Guerrière et sorcière, dans la série précédente, donc avec les deux personnages féminins, Mirage et Mirio. La chasseuse de primes et l'apprenti sorcière. Comment ça s'est construit, ça ?
I was just thinking when you mentioned duality in your previous question, that's something that comes up a lot in my stories as well.
Donc je pensais effectivement tout à l'heure quand vous avez parlé de dualité que c'est quelque chose qui s'applique tout à fait à mes romans aussi.
And in that one, the origin of it is probably just that the first book was originally titled Doppelganger, the German word, and that right there implies doubling. And so I thought, all right, if I want to call a book Doppelganger, then I need two people here. What is going to be the parallel between them?
Et dans cette série, bon, l'idée au départ, c'est que moi, j'avais envie d'intituler un des romans Doppelganger, qui est le terme allemand, mais qui implique aussi une dualité. Donc si je choisissais ce titre, il fallait absolument qu'il y ait deux personnages et qu'il soit, qu'il y ait quelque chose qui ait cette dualité entre les deux.
And especially in fantasy, the kind of dichotomy between fighting the physical strength and so on and magic, also role-playing games having been brought up, that's one of my favorite hobbies, and you do get the division between the characters with magic and those without. So in looking for some kind of pair to match this title Doppelganger, it seemed natural to have one person without magic who was very physically gifted and then one with.
Et donc cet aspect de la dichotomie, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et pour ce qui est des jeux de rôle, et bien personnellement, j'adore les jeux de rôle. Et dans les jeux de rôle, il y a toujours un personnage qui dispose de magie et l'autre non, l'autre qui n'a pas la magie en lui. Et donc si je devais aborder cette dualité dans ce roman, eh bien j'ai décidé qu'il y en ait un qui serait sans magie et l'autre qui aurait cette magie. Donc voilà, c'était assez simple comme origine.
D'accord. Jeanne, dans les romans historiques comme Le Lutier de Mercour, Les Ailes d'Isis, on a l'impression qu'on est plus avec des personnages qui ont une certaine grandeur et on explore tout un parcours de vie. Et par contre, dans Le Murmure, le recueil plus récent, on a l'impression que là, vous mettez plus l'accent sur un instant précis et voir ce qui se passe là, dans cet instant. Alors, est-ce que c'est lié au fait que dans le premier cas, c'était des romans et on a la place de s'étaler, et dans le deuxième cas, sur une nouvelle, on concentre plus? Comment est-ce que le travail s'est fait entre, d'un côté, ces romans avec ces grands parcours, et de l'autre, ces nouvelles où on est sur des instants, finalement?
Mais écoutez, c'est très curieux parce que moi, je suis quand même profondément romancière. Donc, quand je dois saisir un instant, c'est toujours assez compliqué pour moi, parce que j'ai toujours mes héros, il faut toujours mes héroïnes, il faut toujours qu'ils aient un passé, qu'ils aient des projets, j'ai besoin d'un certain, on va dire un certain nombre de pages, du temps pour expliquer. Alors, le travail de la nouvelle m'a infiniment intéressée. D'ailleurs, j'ai continué avec celui qui vient de sortir, là, parce que justement, il faut saisir l'instant, vous avez très bien dit, il faut saisir l'instant, mais malgré tout, vous savez, si vous lisez bien mes nouvelles, il y a quand même un petit peu de passé, un petit peu de... Parce que moi, je ne peux pas, si vous voulez, mes héroïnes, et même quelquefois des personnages tout à fait secondaires, ils prennent toute la place. Donc, il faut que, même si je n'en dis qu'un tout petit peu, ils sont là en entier. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et en même temps, c'est passionnant d'écrire des nouvelles, justement. Parce qu'en plus, dans l'écriture, on doit énormément se concentrer.
Alors, justement, les uns et les autres, est-ce que vous avez des techniques quand vous construisez vos personnages? Je sais que certains auteurs se font des fiches personnages avec... et est-ce que pour, comme le disait Jeanne, un personnage dont on n'utilise qu'une petite partie, est-ce qu'on est obligé de créer tout le reste pour lui donner de la cohérence? Comment ça se passe pour les uns et les autres? Comment est-ce que vous abordez ce travail-là de personnage? Oui.
Alors, je pense que dans mon cas, il y a plusieurs façons de construire les personnages. Donc souvent, c'est, on va dire, des choses absorbées de personnes observées, de soi-même, ou d'idées qui peuvent venir à un moment donné. Mais je fais quand même des fiches personnages pour pouvoir m'y retrouver, pour pouvoir me souvenir de certains éléments et parfois pour faire connaissance avec le personnage en me posant des questions que je ne me poserais absolument pas en temps normal, ce qui me pousse à vraiment réfléchir au passé, aux relations qu'ils peuvent avoir, à leurs objectifs, un peu comme ce que vous disiez, où on se dit, voilà, ils sont là, ils ne sont pas juste de papier, quoi, on sent qu'ils prennent cher. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, notamment, c'est pas une technique, mais c'est ce qui pourrait s'en approcher le plus, les archétypes de Jung, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont beaucoup servi, en fait, pour des tests de personnalité, alors, qui sont énormément utilisés dans les domaines de l'entreprise, en fait, dans les ressources humaines. Et alors, je suis toujours très sceptique sur les cases en général, mais dans ces archétypes de Jung, sur différentes polarités, extraversion, introversion, mentale, sentiment, enfin, façon d'appréhender le monde, ça m'a permis parfois d'essayer de me mettre à la place d'une subjectivité qui n'est absolument pas la mienne, puisque même si quand on écrit un personnage, on est à travers son propre prisme malgré tout, c'est quand même difficile de se mettre complètement dans la peau d'un autre système. Donc ça m'a pas mal aidé, ça.
Jeanne ?
Oui. Moi, si vous voulez, j'ai souvent cette chance. Alors je pense que c'est parce que des idées de romans ou de nouvelles me trottent dans la tête pendant des mois, quelquefois des années. Et j'attends toujours que le personnage principal se construise. Et alors, quand il arrive, il est tout, Il est tout prêt, hein. Il est avec son physique, avec... Je le rencontre un jour, je ne sais pas pourquoi, je le rencontre et alors là, ben voilà, on fait un bout de route ensemble. Donc si vous voulez, je ne peux pas vous dire, parce que pour moi c'est vraiment du domaine de l'inconscient, je ne sais pas comment je construis mes personnages. En général, quelquefois on me dit, bon, c'est des gens... que vous avez rencontré, c'est peut-être vous-même. Oui, il y a peut-être un petit peu de tout, mais seulement je ne sais pas comment ça se fait, parce que ça se fait dans une partie que je ne connais pas de moi-même. Alors pour celui-ci, c'est le dernier là, Entre deux sourires, c'est différent, parce que mon éditeur m'avait demandé d'écrire un livre de nouvelles qui se passerait dans mon pays natal, qui est le Bourbonnais, c'est-à-dire au centre de la France. Et alors là, carrément, je me suis inspirée de personnages ou enfants, adolescentes que j'avais connus ou dont j'avais entendu parler. Et puis, bien sûr, j'ai complètement transformé ces personnages, mais là, j'avais mes personnages nichés dans mes souvenirs.
D'accord. Jean-Laurent ?
Merci. Alors, moi, j'ai une technique qui est un peu différente. Donc, j'écris globalement toujours, sans notes et sans plan. Donc, c'est au fil de l'eau. Et sur la création de personnages, comme c'est mon entrée, j'ai vraiment le travail de théâtre qui est très présent, puisque mes romans sont écrits à la première personne. Donc, je fais parler mes personnages à travers des scènes où je les vois dans le récit. Donc, ça va être tout un espèce de kaléidoscope en fait de scènes où je les vois, je les fais agir, je les fais vivre. Donc j'en écris beaucoup en fait sur ces personnages, et puis quand je remets tout ça en fait bout à bout en cohérence, il y a des choses qui vont marcher ou pas marcher, des choses qui vont être incohérentes. C'est pour ça en fait que par exemple dans le cadre Royaume ou dans le cadre du prochain roman que j'écris, il y a beaucoup d'écriture et en fait beaucoup de coupes en fait. Il y a beaucoup de scènes en fait, une version longue en fait du roman qui existe, mais les scènes n'ont soit pas de sens pour l'intérêt du roman, soit sont incohérentes par rapport aux personnages. Donc on est vraiment sur une création. Une approche théâtrale au départ, c'est-à-dire j'incarne un personnage, je le fais parler pour essayer de trouver son ton, et après j'ai une pratique de je produis énormément, j'essaie de voir dans plein de situations comment il réagit, et j'essaie de voir ce qu'il est pertinent et comment il apparaît.
D'accord. Et vous, Marie, comment est-ce que vous avez une méthode de travail particulière pour construire vos personnages?
I'm not very systematic about it, but I think for me, because my academic background is in anthropology, for me, character is context. I need to know what is the society that my character comes from, what is the world they live in, before I get a sense of who they are.
Je dirais pas spécialement, j'ai pas spécialement de système, mais j'ai fait des études d'anthropologie et pour moi ce qui est important, c'est le contexte, c'est la société dans laquelle évoluent mes personnages, donc c'est ça qui compte pour moi.
So if I have a sense of what the story is going to be, what the conflict is, then the question that I'm asking myself is, who would be the person that's in an interesting position to be looking at this story from? Who's somebody who has some involvement with it or is looking at it from a different angle because of their position in society?
Et donc après, quand je commence à écrire le roman, je me dis, oui, il faut un conflit ici. Et je me demande, bon, qui seront les personnages et quel sera le point de vue de ce personnage au sein de cette société.
Ok, donc ça, c'est un petit peu pour la construction des personnages. Mais ensuite, il y a tout le moment où il faut faire parler les personnages, il faut les mettre dans le récit, dans la narration. Et donc Jean-Laurent, par exemple, nous disait que lui, ses personnages parlent à la première personne. Donc ça, c'est intéressant, mais du coup, on a le point de vue du personnage et la scène vue par ses yeux. Donc comment est-ce qu'on se débrouille pour introduire d'autres choses que d'autres personnages verraient? Est-ce que c'est pas compliqué à faire?
Alors, oui, c'est une excellente question. Dans le cas, c'était entre guillemets la grosse problématique de Royaume, ça passe effectivement par des scènes, un montage en fait. Il y a réellement un montage de texte où les points de vue sont très courts et permettent effectivement de faire partager le point de vue de plusieurs personnages de façon assez dynamique. Sinon, effectivement, c'est toujours tronqué, ou alors on suit un personnage pendant longtemps, on coupe, c'est un autre, enfin, c'est une pratique qui est faite aussi dans d'autres romans. Hein. Mais là, si on veut avoir une action un peu groupée, on est obligé de passer par un montage un peu fin. On est sur une approche qui est presque celle du clip, en fait.
D'accord. Et Samantha, donc, toi, tes personnages, est-ce que tu les décris à la troisième personne ou est-ce que tu as déjà tenté justement cette narration au jeu ?
Alors, je fais les deux, en fait. Il y a le jeu et puis la troisième personne. C'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on navigue différemment et même dans une troisième personne, parfois on peut s'autoriser, pas un point de vue omniscient, mais des petits décalages. Et quand on est dans le jeu, on a quelque chose de très incarné, de fort et qui est un parti pris en général, comment dire, où on a, moi j'ai remarqué que mes romans font moins l'unanimité quand ils sont écrits à la première personne et qu'il y a des polarités très fortes de réaction entre j'adore, je déteste, comme si justement d'incarner à ce point-là un personnage donnait ce résultat-là. Mais sur cette idée-là, c'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais j'entends vraiment les voix de mes personnages, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai les scènes dans mon esprit. Je sais comment ils parlent, je sais quelle est leur voix, je pourrais même dire quel est le timbre des voix, en fait. Donc ça fait toujours bizarre dit comme ça. Mais du coup, ils sont là, quoi. Ils sont extrêmement présents. Comment dire ça ? C'est comme si, à un moment donné, le personnage vous trouvait. Et vous savez de quelle façon il va parler.
John ?
Moi, j'ai écrit je crois que j'ai écrit peut-être un ou deux romans à la première personne. Moi, je préfère écrire, donner... parce qu'en plus, souvent, mes personnages principaux sont des hommes. Mm. Alors, on peut très bien se projeter, puisque j'arrive à me projeter dans mes héros. Donc, on peut très bien. Mais non, je préfère, moi, parce que ça me donne quand même plus de distance. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas dedans. Par exemple, c'est surtout dans Les Eaux Rouges, un roman que j'ai écrit il y a un certain temps, où le héros, Pierre, je lui fais vivre des aventures que j'ai moi-même vécues. Mais j'aime ça, parce que la transposition, en fait, c'est ce qui m'intéresse dans le roman. C'est vraiment la transposition. C'est ne pas être complètement en dehors de moi-même, tout en étant moi-même. Voilà, c'est un peu complexe, mais c'est ce qui m'intéresse dans le roman. Dans le roman, il y a deux choses qui me passionnent, c'est ça et l'écriture. Voilà.
Alors, on reviendra sur le fait de se projeter, mais je voulais, pareil, avoir l'avis de Marie sur est-ce qu'on raconte à la première personne ou à la troisième personne.
I've done both, and I think the strength of third person tends to be that it gives you more room for the kinds of description and exposition that a first person narrator might not really have reason to describe to the reader.
J'ai fait les deux, et je trouve que, personnellement, à la troisième personne, on a une plus grande liberté au niveau de la description, au niveau du point de vue.
And then with first person, it depends on which type, because some first person, it's you are there with the narrator in the moment of the story, and then others, it is after the fact somebody is telling you about a thing that happened before, which is what I've been doing with this series. I think the more immediate first person gives you that sense of being very present, but then the advantage of the more retrospective version is that they've got some of that third-person freedom to tell you about things and to explain stuff in a way that makes pretty much everything that you say into characterization. If they describe the landscape, you're also getting character.
Pour ce qui est de la première personne, je pense qu'il y a deux aspects qui sont très importants. Il y a l'aspect... L'action est décrite au moment où elle se déroule, donc c'est très très présent. Et pour ce qui concerne l'autre possibilité, c'est que le personnage décrit quelque chose qui s'est déjà passé, donc décrit une action dans le passé. Et donc je pense que pour cette description du passé, ce retour en arrière, je pense que c'est intéressant parce qu'en même temps, on a le point de vue du personnage. Donc dans le premier cas, c'est très présent et c'est très immédiat. Mais dans le deuxième cas, on a quand même la possibilité de développer un petit peu son personnage.
Alors, pour revenir sur une question qu'a abordée Jeanne dans sa réponse tout à l'heure, le fait de projeter des choses, on est auteur, on écrit, on crée des personnages, et peut-être qu'il y a des choses de nous qui se glissent. Donc Jeanne nous a dit qu'effectivement, elle avait par exemple utilisé des pans de sa vie, de son expérience, pour les projeter dans un personnage et s'en servir, se servir de ce matériel-là. Samantha, dans Nos âmes jumelles, deux lycéennes, Lou, Sonia, avec des histoires, une histoire du casier, etc. etc. On sent là qu'il y a du vécu derrière. Est-ce que justement tu as utilisé un petit peu des souvenirs pour mettre ça dans les personnages? Et est-ce que tu le fais souvent?
Bon, pour expliquer le casier, en fait, dans Nos âmes jumelles, donc c'est l'histoire de deux lycéennes. L'une veut devenir scénariste et l'autre illustratrice. Et elles se rencontrent sur Internet quand elles sont jeunes. Tout les oppose, mais cette amitié naît. Et on sait que plus tard, ce sont des auteurs de bandes dessinées à succès. Et donc, il y a un moment donné où Sonia elle est folle amoureuse sans jamais avoir parlé à un garçon dans le lycée, naturellement, dans cette période d'idéalisation. Et du coup, elle décide de glisser un petit mot dans son casier qu'elle a quand même repéré telle une stalkeuse bien en amont. Et elle entame une correspondance avec lui sans dévoiler son identité. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais au lycée. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de moins réaliste dans le roman, mais c'était en effet du vécu. Donc, ce qui est drôle, c'est que parfois, dans les livres, on peut mettre... ce qui potentiellement paraît le moins vrai et pourtant ce qui peut être vécu. Donc il y a des petites choses qui émaillent le roman, et c'est vrai que c'est un de mes livres les plus intimes puisque ça parle de la créativité, de cette période de l'adolescence, de du rapport à la vocation, et forcément il y a un moment donné où on va mettre des petites pépites de réel, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a autant accroché au niveau des adolescentes qui disent qu'elles ont l'impression de sentir quelque chose de juste. C'est que c'est sûr que c'est un roman assez viscéral.
Marie, est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans Lady Trent?
Definitely bits and pieces. I try to make sure that different characters get different pieces of me so they don't all end up seeming like the same person.
Oui, et je fais très attention en fait de mettre des petits éléments de moi-même dans différents personnages pour que ce ne soit pas tout le même personnage.
But I'm lucky that different life experiences I've had, I've been able to use for writing. The Tropic of Serpents, which is the second book in this series, she's in a rainforest, and I actually went to Costa Rica at one point when I was a teenager. So in the bit where it describes what it's like for her in the rainforest, that is me channeling my own time in Costa Rica.
Et il y a vraiment, par exemple, dans la deuxième série, dans le deuxième livre de la série, j'ai mis mon personnage dans la forêt pluviale au Costa Rica. Et moi, je suis allée au Costa Rica dans la forêt pluviale quand j'étais adolescente. Donc, j'avais envie d'inclure une description de cette forêt.
But I'll also add that I will use experiences that aren't mine, things that have happened to close friends and family. My brother at one point went skiing without remembering to put on sunscreen and ended up with second degree sunburns on his face, blisters, and weeping fluid. It was very unpleasant. I may have done that to my main character. I don't ever want to experience that, but I will use my brother's pain and suffering for my benefit.
J'utilise aussi les expériences de mes amis et des membres de la famille. Par exemple, j'ai un frère qui est allé faire du ski et qui a oublié de mettre de l'écran solaire sur son visage et qui a eu des brûlures au deuxième degré sur le visage avec des cloques dégueulasses. Et donc, oui, j'ai utilisé l'expérience de mon frère dans un de mes romans. Et ça, bien sûr, quand il se passe des choses comme ça, je n'hésite pas à les employer.
Jean-Laurent, il y a beaucoup de toi dans tes personnages.
Oui, enfin le fait d'utiliser le jeu n'est pas anodin. Je sais pas s'il y a de moi, mais en tout cas je leur fais dire ou je leur fais partager des choses que moi je défends en tout cas. Donc à travers ça, oui, j'apparais sur mes personnages et un peu comme Marie, j'essaie de faire attention qu'il n'y ait pas tout moi dans chacun des personnages, mais des petits bouts. Ce qui d'ailleurs soulève parfois une difficulté, c'est que pour moi la création de personnages est assez compliquée quand j'évoque des thématiques de naissance, de maternité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des relecteurs et des relectrices, parce que sur ces intimités-là, c'est compliqué si je veux donner quelque chose de sincère dessus.
D'accord. Alors, qui dit personnage dit personnage qui se rencontre, qui parle. Et quand on parle des personnages, il y a forcément les dialogues qui apparaissent. Est-ce que vous aimez les dialogues? Est-ce que vous êtes à l'aise dans les dialogues? Comment vous les construisez? Alors, Samantha, tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu les entendais parler, tu avais jusqu'à au ton de leur voix, la tessiture, etc. Ils viennent aussi avec leur vocabulaire, avec comment tu construis ça?
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que les dialogues, c'est quelque chose qui est assez important et présent dans mes livres, surtout dans le contemporain. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon roman, qui s'appelle Les Stagiaires, va être adapté au cinéma. Le producteur m'a dit tout de suite, c'est les dialogues qui m'ont accroché en plus parce qu'il y avait ce côté parler, comment dire, qui serait dans le réel et cette différence, ce décalage entre la narration, on est dans un langage peut-être pas fleuri, mais en tout cas plus travaillé d'un point de vue littéraire et puis des morceaux de dialogue très authentiques comme ça. Donc oui, c'est assez naturel et c'est un travail qui est fait... Ouais, naturellement. Je ne sais pas trop comment expliquer plus que ce que j'ai dit avant, mais en tout cas, c'est ce que je trouve de vraiment intéressant pour donner du vivant et de la visualisation, quelque part.
Jeanne ?
Oui, alors, moi, ça n'a pas été tout de suite. Hein. J'ai eu des difficultés avec mes dialogues, mais d'avoir travaillé pour le cinéma, ça m'a énormément, et pour la télévision, ça m'a énormément apporté, même si... très souvent, mes scénarios restaient dans les... Enfin, le réalisateur n'arrivait pas à les monter. Au moins, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui m'ont fait travailler mes dialogues. Et alors là, oui, ça ne me pose pas de problème dans le roman maintenant, je dois dire. Mais tout à fait au début, c'est vrai, j'hésitais à employer des dialogues. Je m'arrangeais pour qu'il n'y en ait pas trop parce que j'étais mal à l'aise avec le dialogue. Parce qu'en plus, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre et j'ai écrit des pièces de théâtre. Mais... le dialogue du roman est beaucoup plus proche du cinéma que le dialogue de théâtre. Donc là, il y avait une difficulté que j'ai surmontée et je rends grâce aux scénaristes qui m'ont fait travailler.
Alors, Jean-Laurent, avec l'approche du théâtre, du coup, comme tu visualises les scènes, les dialogues viennent avec, je suppose ?
Oui, tout à fait. Là, on est vraiment sur une approche théâtrale. Comme je les fais parler, j'ai une intention de parler, je les imagine presque sur une scène. Effectivement, là, on se retrouve avec des dialogues qui sont davantage proches du théâtre que de la réalité, pour le coup. C'est vrai que là, si vous lisez seuls les dialogues du roman... je ne pense pas qu'on parle comme ça tous les jours, enfin, il me semble pas. Donc c'est vrai que ça donne une tonalité un peu particulière auquel je tiens, parce qu'effectivement, mais je me rends compte en plus en parlant cette table ronde là, la part de mon expérience de théâtre est assez forte en fait, et transposée sur mon écriture. On a un travail au jeu, on a des dialogues qui sont ceux de théâtre, sur une création de personnages qui est les méthodes de création d'acteurs, donc oui.
D'accord.
As part of my anthropology training, some of the things that I had to do involved recording interviews and then transcribing them, which convinced me that I never, ever want to write dialogue that sounds like how people really talk. Because if you actually wrote that up, it would be full of hesitations and sentences that stop halfway through or go nowhere and backtrack and repeat themselves, and nobody wants to read that.
Alors, dans le cadre de mes études d'anthropologie, j'ai été obligée de transcrire des entretiens avec des gens, donc des véritables entretiens qui se sont vraiment passés. Et je me suis dit, si jamais j'écris un roman, il ne faudra pas que ça ressemble à la réalité, que ça se rapproche trop de la réalité, parce qu'en réalité, les gens hésitent beaucoup, parlent en phrases incomplètes et se répètent beaucoup. Donc, il ne faut pas que les dialogues, justement, soient une représentation de la réalité.
But what I do... work on these days, it's a thing that I've been practicing more in more recent stories, is trying to get the different flavors of how people speak, because basic dialogue is easy for me, just characters talking, especially if they're being smartasses at each other. But like different dialects of speech. With Fate Conspire, which is the last of the Onyx Court books, one of the main characters is a London Cockney, and the other one is from Ireland. And so I put a lot of work into, they're both speaking English, but they're not speaking the same English, and trying to really teach myself how to represent that. That's really what I've been working on as a writer, is getting those different styles of speech, even if I'm not representing exact speech like people actually talk.
Ce qui m'intéresse et ce à quoi je fais très attention, en fait, c'est d'essayer de reproduire des manières dont les gens s'expriment. En fait, je n'ai pas envie de reproduire, comme je le disais, un véritable dialogue, mais essayer de donner une idée de comment les gens peuvent s'exprimer. Dans mon roman, par exemple, on a quelqu'un qui parle cockney et un autre qui parle comme le font les Irlandais. Et donc, l'idée, ce n'était pas de reproduire fidèlement, mais de donner une idée, de donner, si vous voulez, la saveur de ces parlers, donc de reproduire ces parlers.
Et est-ce qu'il n'y a pas là l'influence des études d'anthropologie sur cette méthode de travail ?
From your anthropological background then? Yes, I think some of it, because the folklore classes that I did, there's a subfield called ethnopoetics, or ethnography of speaking, and it's about looking into the exact ways that people talk and the ways that that can kind of be artistic, it can be poetic. So I think that did make me pay more attention to that than I had before.
Oui, je pense, parce que j'ai pris des cours sur le folklore, par exemple, et plus spécifiquement sur l'ethnologie du langage et comment les gens s'expriment réellement et l'aspect artistique ou poétique du langage, comment on utilise le langage. Et je pense que oui, ça m'a beaucoup influencé au final.
Alors, une question, puisque vous êtes auteur, vous avez donc créé au fil de vos écrits toute une galerie de personnages. Est-ce que dans vos écrits, dans tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, il y a un ou deux personnages qui vous auraient marqué, que vous avez peut-être gardé plus longtemps en vous, qui vous ont laissé une trace ? Et si oui, quel personnage et pourquoi ? Alors, on commence par Jeanne, peut-être ?
Oui, je vous parlais tout à l'heure de ce roman, Les Eaux Rouges. Et alors, le personnage s'appelle Pierre et... alors ce personnage-là, j'ai tellement vécu avec lui, je l'ai tellement aimé malgré tous ses défauts, que quand j'ai terminé ce roman, j'ai fait une sorte de dépression, comme si j'avais eu un deuil très très grave avec un grand amour. Bon, je m'en suis remise assez vite parce que j'ai un caractère comme ça, mais ça a été très très dur. Par exemple, le matin, je dormais très peu, et le matin, quand je me réveillais, je me disais, oh mon Dieu, mais je ne peux plus aller vers mon roman, être avec Pierre. Enfin, c'était une vraie. Ça a été bon. Je suis partie à la campagne chez ma mère pendant 3 mois. Et pour essayer de dormir et récupérer, oui. Ça a été quelque chose de très fort. Et puis il y en a un autre, c'est Vivant de nom, mais là c'est un personnage réel que j'ai glissé dans un roman, comme ça, c'est un très vilain personnage. Mais voilà, moi je m'embourrache, si je puis dire, n'est-ce pas, de personnages qui sont... Enfin, voilà, c'est comme ça.
Les bad boys, oui. Samantha ?
Alors, il y en a eu pas mal, mais un des plus marquants, c'est Sonax dans Oraison, qui est un marchand en fait d'objets magiques, un trafiquant, qui est apparu au chapitre 10 de mon roman quand je l'ai démarré, quand j'avais 17 ans. Et bon, il arrive quelque chose au personnage à un moment donné qui fait qu'on ne le voit plus. Et j'ai été obsédée par lui et par cette idée, par son passé. J'avais plein d'éléments qui me venaient. Donc j'ai quand même écrit un autre roman sur lui qui fait également 700 pages. Donc voilà, c'est pour dire, qu'il s'appelle Métamorphose, où en fait on suit absolument toute sa vie, de ses 13 ans à ses 50 ans. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette expérience-là, c'est que J'ai presque réécrit mon premier roman à travers ses yeux à lui. Et c'était un travail vraiment assez complexe, puisqu'on se rendait compte qu'il a lui-même fait partie de certaines manipulations, etc. Et que ce n'est pas par hasard que ce qui arrivait dans Oraison est arrivé. Et c'était comme passer dans les coulisses, en fait, d'un théâtre et voir que son axe était derrière. Donc ça a été un énorme travail de construction. Et il m'a beaucoup obsédée pour revenir dans cet univers pendant si longtemps.
Jean-Laurent ?
Alors, ouvertement, moi, il y a un personnage qui est assez important pour moi. À la fin de Royaume et de Vent et Colère, donc qui fait partie intégrante du livre, il y a une nouvelle qui est une forme d'épilogue, en fait, qui met en scène Gabin, qui est un gamin de 12-13 ans. Et la nouvelle aborde la thématique un peu dure de la maltraitance sur les enfants. Donc, c'était à la fois... Voilà quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, d'aborder ça à travers dans cette nouvelle. Et j'ai eu un lien, grâce à cette nouvelle, il y a des lecteurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit on est particulièrement touchés par l'histoire de Gabin. Et voilà, donc ça m'a fait en plus un contact un peu privilégié avec une partie de mon lectorat. Voilà, je suis plutôt un très mauvais... très mauvais pour les nouvelles, et c'est peut-être la seule nouvelle où effectivement j'ai réussi à faire passer quelque chose qui me tenait à cœur.
Marie,
I know what Jean means about kind of mourning characters. I just turned in the draft of the fifth and final of the memoirs, and after five books, especially I think because these are in first person and because the voice came to me so quickly when I started writing, it feels like Lady Trent is a very good friend of mine who has now moved to the other side of the country and we won't get to hang out all the time anymore. And it did make me sad.
Je comprends très bien ce que Jeanne veut dire quand elle nous parle de deuil, parce que je suis en train de vivre justement ce phénomène, c'est-à-dire que je viens de rendre le cinquième livre d'une tétralogie, le cinquième volume d'une tétralogie, et comme cette tétralogie est à la première personne, et comme je le disais tout à l'heure, la voix m'est venue vraiment naturellement et spontanément comme ça, je veux dire que je me sens en deuil maintenant de Lady Trent, et que pour moi c'est comme si c'était une très bonne amie qui était partie vivre à l'autre bout du pays et que je ne vais pas pouvoir, avec qui je ne vais pas pouvoir passer autant de temps maintenant et j'en suis triste.
But I'll also say the first novel that I ever finished, which is a book called Lies and Prophecy, it didn't come out until more than 10 years after I finished writing it because I ended up rewriting it a number of times. And the reason that I did that was that the main characters in it, Kim and Julian, it's an urban fantasy. I was so committed to the two of them and to their story that I wasn't ready to just say, okay, that was my first novel, I should let it go. And in particular, the more that I thought about the characters, I knew what story I wanted to tell about them in a sequel, and I really, really wanted to write that sequel, which I couldn't do unless I got the first book out there. So with that one, it was very much the characters that I just couldn't let go of, and that's what drove me to keep working on it.
Alors pour ce qui est de mon premier roman, Lies and Prophecies, donc il m'a fallu 10 ans pour le publier. Donc j'ai réécrit constamment ce livre parce que en fait le but du jeu pour moi c'était que j'étais très très attachée aux personnages principaux qui sont Kim et Julian. Je ne voulais pas les laisser partir et j'avais une idée de suite. Et pour que la suite puisse exister, il fallait que le premier roman soit vraiment parfait et publié. Et donc j'ai réécrit plusieurs fois ce roman pendant une dizaine d'années avant de l'envoyer, avant de le faire publier.
D'accord, merci. Donc là, on arrive à peu près au terme de la durée de ce débat. Donc je voudrais savoir s'il y a des questions dans le public. Oui. Alors, qui veut se lancer ?
Difficile. Non, c'est jamais un moment très plaisant. Moi, je me souviens dans mon premier roman, Raison, je ne spoilerai pas, hein, mais je sais quand les personnes ont lu ce roman, puisque quand elles viennent en dédicace et qu'elles me disent « Je vous aime et je vous hais en même temps pour ce que vous avez fait », je sais très bien qu'elles ont fini le roman. Et moi, je vais pleurer, mais comme une madeleine, devant mon écran quand j'ai écrit ce passage-là qui était dans mon esprit depuis les premiers chapitres. Donc, difficile.
I would say that some characters, it's very easy to kill them off. They have it coming. But others, it is very sad, and I will say, don't ever kill a point of view character with the plague, because then you have to write what it feels like to die of plague, and that's not fun for anybody.
Pour certains personnages, alors là, je veux dire, c'est extrêmement facile de s'en débarrasser, de les tuer, parce qu'ils le méritaient depuis le début. Mais dans d'autres cas, c'est vraiment très, très triste. Et je veux dire qu'il faut se méfier, en fait, si vous voulez détruire, enfin, tuer un de vos personnages, et un personnage qui soit un personnage qui donne son point de vue dans le roman, il faut, en fait, je conseillerais pas de le faire mourir de la peste, parce que là, il faut décrire les affres de la maladie, et ça, je vous le conseille pas.
Et alors, que dire quand on a un co-auteur et qu'on travaille à deux et qu'il y en a un qui veut tuer le personnage et que l'autre n'est pas d'accord? Ça peut être compliqué. Y a-t-il une autre question? Non, bah, je pense qu'on a fait le tour du thème. Donc, bah, je tenais à remercier les auteurs présents pour leur contribution. J'espère qu'ils ont eu plaisir à participer à ce débat que j'ai trouvé passionnant. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Donc, je vous invite à retrouver les auteurs en dédicace, à découvrir leur galerie de personnages et leurs ouvrages qui sont tous superbes, et éventuellement à discuter avec eux. Vous les croiserez tout au long du festival. Merci pour votre attention.
Et je voudrais juste remercier Sylvie pour sa magnifique double traduction.
Bravo.
Et notre traductrice de dernière minute qui a fait un bel effort au pied levé. Merci.